Bonjour, Raymond Richard au micro, Guy est à la technique, et aujourd'hui, pour cette émission Histoire et mémoire, eh bien nous allons plonger dans la mémoire économique et industrielle de Dreux avec Madame Montigny du CAUE à l'occasion de l'exposition qui a lieu actuellement à Dreux et qui va se tenir ensuite à Chartres sur la radiotechnique. Bonjour madame et merci d'être venue à Radio Grand Ciel pour parler du CAUE et de cette exposition sur la radiotechnique.
Bonjour madame, je vous remercie de me recevoir.
Oui, mais pour nous c'est tout à fait intéressant que la radio s'ouvre à ce qui se passe dans la ville. Et d'autant plus que la radiotechnique a vraiment marqué l'histoire drouaise.
Tout à fait.
Mais je crois que peut-être pouvons-nous parler d'abord du CAUE.
Mm-hmm.
Et puis ensuite de cette exposition sur la radiotechnique. Alors, le CAUE.
Alors, le CAUE, c'est le Conseil en architecture, urbanisme et environnement. Donc, c'est une association qui existe à l'échelle du département. Il y en a dans quasiment tous les départements français. Et donc, notre vocation, c'est de conseiller, de sensibiliser, d'informer sur l'architecture de qualité et le milieu de vie pour tous.
Donc, pour tout le monde, oui, c'est ça,
parce
que ce n'est pas simplement spécifiquement pour la ville ou pour des industriels. Ça peut être aussi pour les particuliers.
Alors, c'est vraiment la vocation première pour les particuliers. L'idée, c'est vraiment que chacun peut venir. Nous donnons des conseils gratuits sur rendez-vous. Alors, nous sommes basés à Chartres. Des fois, on peut se déplacer pour des besoins particuliers, mais l'essentiel de nos rendez-vous se font à Chartres, au CAUE lui-même. Nous sommes rue du Grand Faubourg à Chartres. Et le principe, c'est que si vous avez une question pour une construction, pour un agrandissement, ou pour rénover une maison, ou pour des aménagements paysagers, tout est possible, vous venez et nous avons des conseillers qui vont être plutôt spécialisés en architecture. Donc, nous avons 3 architectes en environnement ou en urbanisme, et on passe une heure et demie à tenter de résoudre les problèmes et à conseiller. Alors nous ne faisons pas de projet, nous ne sommes pas habilités
à faire de la concurrence aux architectes.
Voilà, exactement, donc pas de concurrence, c'est vraiment juste du conseil pour améliorer la qualité et pour promouvoir la qualité. Après, nous avons également d'autres missions, à savoir la sensibilisation, donc nous faisons des expos comme celle de la radiotechnique, nous faisons des ateliers pour les enfants. Nous faisons des formations, par exemple, pour les élus ou pour les services techniques, pour les aider également dans leur mission.
Quelle est votre relation, par exemple, dans une ville comme Chartres, avec les monuments historiques?
Alors, par exemple, avec la DRAC,
oui,
la Direction régionale des affaires,
oui,
culturelles. Donc, en fait, il y a un architecte qui s'appelle l'architecte des bâtiments de France.
Voilà, parce qu'à Chartres, c'est quand même très important.
Voilà. Alors, les relations qu'on a, en fait, on travaille vraiment en coopération avec eux. On n'a pas le même rôle. Eux, ils sont... Donc, ils ont effectivement une mission de conseil également. Mais ils travaillent sur les parties les plus protégées. Nous, c'est vraiment à l'échelle du territoire, sur les zones également non protégées. Vraiment, on travaille sur le milieu rural, sur le milieu urbain. C'est plus dans le conseil, dans l'accompagnement.
Et alors actuellement, avec cette question de l'environnement, de la question de l'énergie, j'imagine que vous devez être très sollicité pour les nouveaux matériaux ou quels matériaux choisir?
Tout à fait. Nous avons au sein du CAUE un ambassadeur sur les matériaux biosourcés, donc qui nous accompagne sur ces projets-là. Bien sûr, nous avons beaucoup de demandes, notamment de gens qui sont un peu perdus avec toutes les normes, avec toutes les choses qu'il faut mettre en place, par exemple dans les constructions nouvelles ou dans les réhabilitations. Et donc, notre rôle, c'est aussi de les aider pour que les travaux soient aux normes par rapport à ce qui est demandé, mais que ce soit aussi en relation avec l'usage qu'ils vont avoir de leur bâtiment et qui correspondent à la réalité des choses.
Voilà. Puis peut-être se tenir dans une certaine enveloppe financière.
Bien sûr. Là, on est vraiment dans la réalité du terrain. Les gens n'ont pas toujours les moyens de faire des choses extraordinaires. Il y a des solutions simples qui peuvent être mises
pour
en place.
Pour éviter les erreurs, au moins, par exemple.
Voilà, pour éviter les erreurs. Et puis, pour quand même améliorer notablement le confort de vie, avec des solutions, voilà, avec des solutions simples et adaptées au territoire aussi, parce qu'on ne va pas mettre la même solution à Dreux ou à Chartres qu'à Marseille. Donc il faut vraiment s'adapter au territoire. Et ça, c'est très important. Il y a des matériaux locaux qui permettent d'avoir des bonnes solutions techniques et qui vont faire en sorte que le bâtiment, voilà, ne soit pas une hacienda espagnole, comme on peut voir dans certains endroits, mais vraiment la longère qui correspond au territoire.
D'accord, et pas forcément le phénix partout.
Exactement.
J'ai vu votre grimace quand j'ai évoqué phénix, les pauvres. Il faut quand même bien loger les gens.
Alors, il faut bien loger les gens, mais là aussi, notre rôle, c'est vraiment de promouvoir et l'architecture de qualité et les personnes qui peuvent produire l'architecture de qualité. Et il faut vraiment mettre dans l'esprit des gens que ce n'est pas forcément plus cher d'avoir affaire à un architecte parce qu'il va trouver des solutions qui vont être vraiment adaptées aux gens. Il va proposer des solutions qui vont être innovantes et qui vont faire des économies d'énergie, qui vont permettre de faire des économies après sur le chauffage, sur l'isolation, sur des choses comme ça. Ils vont s'adapter à ce que les gens demandent, à leur manière de vivre. Ils vont vraiment étudier aussi le territoire et justement pas mettre des panneaux solaires à tire-larigot pour juste vendre du panneau solaire à un endroit où la toiture, de toute façon, elle est au nord, qu'il y a du vent et que ça ne va pas chauffer du tout. Ou alors mettre une géothermie dans un terrain qui est rempli d'eau où ça ne marchera jamais. L'étude précise de la demande des gens et de leur mode de vie permet de faire quelque chose de cohérent sur le territoire et qui va permettre de faire des économies. Donc il faut vraiment se pencher sur la question, ne pas hésiter à rencontrer les architectes. C'est pas forcément payant d'avoir un premier rendez-vous, un premier entretien avec eux, voir ce qu'ils font, voir ce qu'ils proposent et voir qu'on peut avoir vraiment une maison qui va être très belle, qui va être très bien insérée dans le bâti plutôt que la maison du promoteur ou du constructeur qui va être la même pour tout le monde, quels que soient vos besoins, quelle que soit votre façon de vivre, qui ne va pas répondre à des demandes particulières. Et surtout, à la revente, il faut vraiment voir qu'il y a des bénéfices qui sont possibles qu'on ne ferait pas avec une maison quelconque.
Eh bien voilà, donc un certain nombre d'informations sur le CAUE. Merci de nous les avoir données.
Avec
et
plaisir.
Et pour nos auditeurs, eh bien, je rappelle que rue du Grand Faubourg à Chartres, il y a donc cette structure qui est pour tous.
Pour tous et tout le monde sera bienvenu.
Voilà, alors une petite pause et après nous abordons la radiotechnique.
Merci beaucoup.
Nous sommes toujours dans l'émission Histoire et mémoire et à l'occasion de l'exposition qui s'est tenue en octobre à Dreux, dans l'ancienne chapelle de l'Hôtel Dieu, sur la radiotechnique et se poursuit à Chartres jusqu'en février. Donc nos auditeurs qui l'ont raté à Dreux, eh bien vous pourrez aller la voir, mais c'est à Chartres. Alors parlons un peu de cette exposition. Alors c'est vrai que la radiotechnique a marqué le paysage drouais, la vie des drouais. Mais qu'est-ce qui vous a amené à faire une exposition sur cette usine, en fait, cette entreprise ?
Alors, la démarche première était d'abord, dans les années précédentes, de travailler sur le patrimoine du XXe siècle d'Eure-et-Loir. Il y a actuellement une démarche en cours de labellisation du patrimoine du XXe siècle, donc toutes les grandes architectures de qualité qui marquent le paysage, qui marquent aussi l'histoire de l'architecture et qui constituent l'environnement des gens qui habitent en Eure-et-Loir. Et en s'intéressant un petit peu à tout ce patrimoine-là, on a découvert
qu'à Dreux, il y avait beaucoup de choses et que
alors,
dans certains cas,
elles étaient un
peu abandonnées.
Alors, ça, on savait qu'à Dreux, il y avait énormément de choses. La radiotechnique est évidemment un monument, mais on a découvert aussi un petit peu l'histoire et l'engouement émotionnel qu'il y a pour ce bâtiment. Il y a vraiment une grande matière à réfléchir sur ce type de bâtiment-là. Et donc, la radiotechnique s'est présentée comme un monument à étudier. Et
témoin de son temps.
Témoin de son temps, témoin aussi des techniques, de tout ce qu'il y a autour, donc l'implantation et l'évolution de Dreux qui est en lien avec ce bâtiment-là.
Voilà, donc au début, un projet sur l'architecture qui devient un projet sur l'histoire.
Effectivement, ça lie les deux.
Oui.
On a là vraiment un élément patrimonial. Ça touche les consciences de chacun, la vie de chacun. Et par ce biais-là, ça en fait un élément patrimonial. Alors c'est vrai que ces bâtiments, d'autant plus industriels du XXe siècle, sont peu connus et souvent mal aimés, à tort. Là, on a une architecture qui est très particulière, qui s'inspire de tout un tas de mouvements qu'il y a eu avant, hygiénistes et compagnie, qui travaillent en lien avec le mouvement moderne qui a vraiment eu un essor dans les années 50. Donc, il y a tous les codes de cette époque-là qui sont retranscrits, notamment sur le pavillon d'accueil. Et après, on détaille un petit peu aussi dans l'exposition tous les bâtiments techniques, les magasins, les bâtiments de construction vraiment des téléviseurs. Et qui, là aussi, marque l'avancée des techniques par les grandes portées pour installer les machines, les grandes résistances justement pour supporter tous ces poids, l'arrivée de la lumière pour pouvoir travailler sur les métiers avec des grandes baies, donc vraiment un style industriel qui apparaît à cette époque-là. Et nous retraçons également l'histoire de l'industrie et l'histoire de l'architecture industrielle, parce que celle-ci date quand même du 19e siècle. Et notamment dans le pays de Rouen, il y a, dès le 19e siècle, des industries intéressantes à étudier.
Alors, la radiotechnique, effectivement, le pavillon que vous évoquez, c'est celui qui est en arrondi avec des briques.
Voilà, c'est un bâtiment donc en briques avec une grande avancée qui abrite l'escalier et qui était occupé essentiellement donc par le pavillon d'accueil et puis le restaurant. Il y avait également donc le restaurant d'entreprise. Il y avait également quelques bureaux, le foyer pour le personnel. La radiotechnique, c'était également une avancée et ça représente vraiment les politiques sociales de l'époque où on faisait en sorte que le personnel soit bien, que les ouvriers...
Ce qu'on redécouvre aujourd'hui, mais après
voilà,
l'avoir oublié.
Avec les grandes entreprises comme Google ou Microsoft qui font ça pour leurs employés maintenant, et d'autres bien sûr à plus petite échelle. Mais là, il y avait des installations de sport, il y avait une infirmerie, il y avait... Les postes de travail étaient fleuris pour que les ouvrières, parce qu'il y avait beaucoup d'ouvrières dans cette usine, pour que les ouvrières soient à leur aise.
Les doigts féminins étaient très adaptés au câblage, entre
Tout
autres.
À fait. Il y avait beaucoup de petites pièces à assembler, des petites choses très précises à faire. Et donc, les femmes avaient vraiment leur place dans cette usine de téléviseur.
C'était très couru, hein, une place à la radiotechnique. Pour le personnel féminin, c'était « je suis embauchée à la radiotechnique », c'était vraiment « ça posait la personne ».
Mais c'est très révélateur, voilà,
de
cet esprit de l'époque. Donc c'est vraiment un esprit d'entreprise, donc poussé par le maire de l'époque, Maurice Violette, où on essayait vraiment de motiver la population à venir travailler là. Et beaucoup de gens sont venus et ça a vraiment fait un essor pour Dreux. Beaucoup de gens sont venus du reste de la France. On a vu l'arrivée de Bretons, notamment.
Des Bretons au début, oui, c'est vrai.
Voilà.
Mais après, effectivement,
et puis après,
on
voilà,
a été chercher du personnel beaucoup plus loin.
À l'étranger, exactement, qui se sont très bien intégrés. On en a vu beaucoup qui sont venus déjà à l'exposition.
Ah oui, à l'exposition.
Voilà. On a eu notamment une personne portugaise qui est venue, qui nous a raconté tous ses souvenirs et qu'elle était venue à Dreux pour travailler à la radiotechnique. Elle avait été recrutée, donc c'était très, très intéressant de pouvoir échanger avec elle. Et puis tous les autres, bien sûr, qui sont venus, qui nous racontent leurs souvenirs, qui nous racontent un âge d'or, alors qui semble un peu perdu, mais qui ne l'est pas vraiment, puisqu'il y a d'autres choses qui sont venues à la place, qui nous racontent cet âge d'or, l'esprit d'équipe qui régnait à la radiotechnique. Souvent, c'est vraiment des très bons souvenirs que les gens ont.
Ils ont peut-être fait un peu la toilette du souvenir et oublié les mauvaises choses. Mais c'est vrai qu'ils avaient du travail, ils étaient placés socialement.
Voilà. Et c'est vraiment quelque chose de très commun dans les gens qui sont venus. On a quand même eu déjà quasiment 400 personnes qui sont venues, beaucoup qui ont travaillé là-bas. Et vraiment, les gens ont un sentiment d'avoir été bien dans cette usine. Alors c'est vrai que le sentiment est un petit peu terni par la fin de la radiotechnique. Elle a fermé ses portes en 2006. Et là, effectivement, il y a eu un côté un petit peu plus négatif, puisque pas mal de gens ont été licenciés.
N'ont pas retrouvé du travail.
Certains n'ont pas retrouvé de travail, effectivement. Donc là, c'est vrai que c'est le côté un petit peu triste de la fin de l'histoire.
de l'aventure industrielle.
Par contre, pour rebondir sur la fin de la radiotechnique, aujourd'hui, le site a été reconverti. Il accueille une pépinière d'entreprises, donc avec plusieurs entreprises qui ont pu s'installer là. Les locaux techniques ont été reconvertis en locaux de bureaux. Et il y a aujourd'hui 300 ou 400 personnes qui travaillent sur le site. Et il y a encore possibilité d'agrandir puisqu'il reste des locaux libres qui peuvent accueillir d'autres bureaux.
Oui, parce que la radiotechnique, à un moment donné, c'était plus de 3000 personnes.
Alors entre sur le site, deux usines, voilà, entre les deux usines, il y a eu vraiment beaucoup de monde qui était employé là.
Et plus, oui.
Et donc, dans la population de Rouez, on trouve toujours quelqu'un qui a un ami, un oncle, une tante, un parent qui connaît ce site et qui a travaillé.
Cette usine. Alors, parlons un peu de la particularité de l'architecture et puis de l'architecture de Rouez de cette époque, puisqu'il y a aussi d'autres exemples de l'architecture.
Alors tout à fait, nous avons d'autres exemples. Alors justement, sous l'impulsion de Maurice Violette, qui est quand même resté à Dreux un certain nombre d'années, on voit qu'il y a l'appel et la vocation à faire de Dreux une ville qui soit de son temps. Donc Maurice Violette a fait pas mal de choses pour moderniser la
ville. Surtout
pendant
la Première Guerre mondiale, finalement, ça répondait aux besoins des Dreux, et donc tout l'ensemble du Prévan et du Sanat a été acheté, et après il fallait l'utiliser.
Voilà, tout à fait. Mais il a aussi fait le nouvel hôpital. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de choses à cette époque-là. Et notamment, voilà, le sanatorium qui aujourd'hui est en triste état et qui est laissé dans un
peu à l'abandon. Oui.
Il y a eu des projets, hein, puisque la ville l'a racheté il y a quelques années. Donc, il y avait des projets. Et le problème, c'est le manque d'argent, clairement, pour en faire quelque chose. Et puis, tous les problèmes qu'il y a eu récemment de problèmes de sécurité qui sont récurrents dans ces grands édifices qui sont à l'abandon. Mais là, on a une vraie architecture de qualité de type art déco. Donc là, on est plutôt dans les années 30 pour le sanatorium. Donc, c'est avant la radiotechnique. Et c'est un ensemble assez extraordinaire qui présente donc toute cette architecture de sanatorium qu'on trouve à toute l'échelle de la France, qui servait donc à accueillir les personnes malades. Et vous avez plusieurs bâtiments. Vous avez un bâtiment pour les hommes, un bâtiment pour les femmes, un bâtiment pour les jeunes filles, un bâtiment pour les enfants, etc.
Puis il y avait le Prévan, mais le Sana. Enfin, il y avait aussi le Prévan. Enfin, je veux dire que c'était vraiment...
Il y a le Préventorium.
Tout un ensemble, oui.
Donc c'est un ensemble qui est assez énorme, qui n'est pas accessible aujourd'hui pour des raisons de sécurité, mais qui garde encore une certaine qualité. On trouve encore des mosaïques, on trouve des portes anciennes, des fenêtres anciennes, vraiment dans ce style art déco très caractéristique et monumental. Et c'est vraiment un très très bel ensemble. Alors après, dans cet esprit art déco...
C'est la personne de l'architecture qui parle.
Ah, je suis passionnée. Non, c'est vraiment des architectures qui sont monumentales, qui impacte très fortement le paysage. Quand on passe devant, on ne peut pas rester insensible à la grandeur, aux matériaux qui sont des matériaux de grande qualité, qui donc ont perduré dans le temps jusqu'à aujourd'hui, il faut quand même le noter, et qui sont vraiment très très intéressants à étudier et à préserver forcément si, dans la mesure du possible.
Ça, c'est peut-être une autre histoire, mais enfin bon, qui sait.
Mais par exemple, on a le groupe scolaire Ferdinand Buisson, également à Dreux, qui a été restauré il n'y a pas très longtemps, qui est en très bel état. Et qui
sert toujours.
Qui sert toujours.
Oui.
Donc, comme quoi c'est possible. Et on peut trouver dans d'autres départements, par exemple des sanatoriums, donc qui sont un peu le pendant du sanatorium de Dreux, qui ont trouvé des nouvelles utilisations, comme une école d'architecture, comme des logements, comme... Enfin voilà, il y a plein de possibilités pour passer à autre chose après. Trouver
donc
une nouvelle vie à ces bâtiments.
Un patrimoine de qualité. Alors parlons un peu de l'usine, la radiotechnique, parce que finalement, il y a aussi... l'exposition montre des ateliers, montre les gens qui travaillent, montre des postes de télévision. Donc on peut peut-être parler aussi, et vous l'évoquez dans l'expo, l'usine elle-même et les activités qui s'y déroulent.
Vendue en Espagne, au Portugal et même parfois jusqu'en Russie, donc là on s'éloigne un petit peu de l'Europe. Il y avait un vrai impact de ces radiotechniques à l'échelle européenne. D'ailleurs, on trouve d'autres radiotechniques à Chartres, à Suresnes. C'est vraiment quelque chose qui s'est implanté tout autour du bassin parisien.
De l'ouest du bassin parisien.
De l'ouest du bassin parisien, jusqu'à Caen même. Donc là, on s'éloigne un petit peu. Et l'usine donc fabriquait donc ses téléviseurs. C'était essentiellement la fabrication des tubes cathodiques dans l'espace haut. Et puis après, il y a eu un agrandissement au nord. Donc maintenant, c'est la radio du bas, comme on dit. Mais c'est assez au nord de l'usine. Et donc, on trouvait des magasins pour le stockage. On trouvait aussi... Il y avait un magasin qui vendait. À l'époque, on pouvait aller acheter directement son téléviseur sur place.
Ah oui, téléviseur. Et puis du matériel. Enfin, notamment aussi... En lien avec l'aspect social que vous évoquiez tout à l'heure, le personnel pouvait accéder à l'achat de produits d'électroménager, etc.
Tout à fait. Tout le monde avait sa radio Philips à la maison.
Oui, c'est ça. C'est vraisemblablement.
Et pour parler du côté social, du coup, il y a un aspect qui est assez intéressant, c'est qu'avec toute cette main-d'œuvre qui est arrivée à Dreux, il a fallu construire des logements. Et donc, vous avez plusieurs quartiers qui ont été construits à ce moment-là, pour accueillir les gens, donc des quartiers qui à l'époque étaient très modernes, comme par exemple le Lièvre d'Or, qui accueillaient des barres d'immeubles, mais c'était des logements du dernier cri, avec l'eau, l'électricité, ce qui n'était pas forcément accessible à tout le monde dans les années 50. Et c'était vraiment l'idéal de pouvoir habiter dans ces logements-là. Et donc, vous avez tous ces quartiers qui ont permis aussi à Dreux de s'agrandir et de pousser.
C'est amusant parce qu'effectivement, les quartiers... À cette époque, c'était très moderne et on les faisait visiter par le ministre de la Reconstruction ou bien des autorités de l'État. Et puis après, c'est devenu les logements dont on ne voulait pas ou bien que l'on a détruits pour reconstruire d'ailleurs. Effectivement, là, on a une évolution d'architecture qui est de l'architecture pour habiter. Et puis, il y a eu les foyers.
Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que ça, c'est le manque d'entretien, le manque de... la déshérence de ces bâtis-là, alors qu'on a là aussi un regain d'intérêt pour ce patrimoine des années 50, du XXe siècle. On se rend compte qu'il y a aussi des architectures de qualité qui marquent aussi une époque, qui marquent un moment d'architecture et qui ont une valeur. Et ça vaut le coup aussi de mettre un petit peu d'argent dans la rénovation de ces quartiers-là, ce qui se fait d'ailleurs...
Ce qui se fait beaucoup à Dreux.
Et ce qui se fait beaucoup à Dreux. Et on voit que du coup, les gens ont de nouveau envie d'habiter, puisque habiter dans un immeuble, il n'y a pas de souci, s'il est en bon état, si les espaces urbains autour sont de qualité, et si on trouve une offre commerciale à proximité. C'est vraiment intéressant. On est près du centre de Dreux, on est près du centre-ville, il y a des écoles à proximité. Donc c'est vraiment qu'une question d'entretien et d'investissement des gens dans leur patrimoine.
C'est très amusant parce que, de fait, la venue de la population nombreuse a fait qu'il y avait une demande de logement très, très forte. Et à ce moment-là, pour avoir une HLM, il y avait 2 ans d'attente, donc c'était très long. Et le maire, M. Violette, voulait vraiment avoir une politique de construction. Et c'est vrai que lorsque l'architecte disait « bien, on va garder une certaine enveloppe pour les abords, etc. », le maire disait « mais combien de logements on peut faire ?» Eh bien, on va faire les logements. Voilà, c'était priorité au logement.
Là aussi, avoir un espace qui va être agréable avec des matériaux, sol de qualité, avec des plantations qui vont être toujours agréables à regarder, des espaces pour les enfants, des espaces pour les personnes âgées, des espaces pour chacun, ça joue énormément dans le ressenti du cadre de vie, dans l'amour que les gens peuvent avoir pour leur quartier. C'est essentiel.
J'apprécie beaucoup votre intervention parce qu'en fait, je me dis, quelqu'un qui trouve une image positive de Dreux, c'est quand même très bien. Merci.
Mais c'est sincère, je ne connais pas Dreux depuis très très longtemps, pour tout vous avouer. Et je n'ai pas du tout l'image négative que j'entends que certains nomment. Le centre-ville est en pleine rénovation, tout avance, tout est beau. Vous avez un patrimoine très ancien qui est exceptionnel avec l'église, le beffroi, c'est incroyable. Et vous avez du patrimoine du XXe siècle plus récent qui est en phase d'être sans cesse restauré, sans cesse mis en avant, et la possibilité d'avoir du patrimoine futur avec les nouvelles constructions. Que demander de plus ?
Tout est positif. Donc, venez voir cette exposition. Si vous ne l'avez pas vue à Dreux, allez la voir à Chartres.
Tout à fait. Donc, nous serons ravis de vous accueillir au CAUE à Chartres. C'est vraiment un plaisir, en plus, de voir que les gens s'y intéressent. On n'espérait pas déjà avoir tant de monde à Dreux, donc c'est un vrai plaisir. Thank you.
aussi avant de clore l'émission. En fait, il y a bien sûr l'étude de l'architecture pour faire cette exposition, mais il y a aussi, j'imagine, des rencontres avec les gens qui étaient en place, les gens qui étaient responsables, les gens qui avaient telle ou telle fonction.
Alors, effectivement.
Et j'imagine que là aussi, la dimension humaine et la rencontre étaient importantes. Parlez-nous un peu de ça.
Alors, la rencontre, peut-être la plus déterminante dans cette exposition, c'était la rencontre avec le dernier directeur du site, Monsieur Philippe Rive, qui était directeur de 2002 à 2006. Et qui nous a laissé ses archives. En fait, quand le site a fermé, les archives avaient vocation à finir à la benne et il les a récupérées. Il a tout gardé chez lui en se disant « ça servira forcément à un moment ou à un autre à quelqu'un, je ne peux pas les laisser partir ». Et donc, il nous a prêté toutes ces archives et l'essentiel de nos photographies anciennes, toutes les photographies de chantier, toutes les photographies des ouvriers, des ouvrières dans l'usine viennent de lui. Et il nous a également retracé une partie du parcours de la radiotechnique. Donc ça, c'était vraiment très, très utile. Après, on a eu des échanges avec quelques personnes, mais qui parlaient plus du témoignage particulier ou vraiment de la technique très forte qu'on ne souhaitait pas forcément mettre en avant. L'aspect vraiment technique pur nous semblait difficilement accessible pour le grand public. Et c'est vraiment une exposition qui a vocation à être grand public. Donc on ne voulait pas non plus s'avancer trop dans la technique. Et puis de toute façon, c'était très complexe. J'avais pas forcément la capacité de tout comprendre non plus, donc voilà, je me suis dit que c'était pas nécessaire. Et on a vraiment travaillé donc toute l'équipe du CAE sur ce thème-là. Et donc effectivement, après, on a eu des rencontres avec des passionnés de téléviseurs qui nous ont parlé des téléviseurs. Voilà, il y a eu pas mal d'échanges à ce niveau-là. Après, on a travaillé avec les archives, donc les archives de Dreux, les archives d'Eure-et-Loire, les archives aussi de départements limitrophes pour parler de l'architecture en elle-même sur les sites industriels. Donc c'est vraiment quelque chose qui mobilise beaucoup de ressources.
Et comment on réagit ? Parce que j'ai observé, quand je suis allée visiter cette exposition, qu'il y avait aussi des personnes qui étaient très très attentives au montage audiovisuel que vous avez présenté, attentives aussi aux photos et qui éprouvaient le besoin de parler. Et alors comment vous avez ressenti cette prise de parole des uns et des autres venant visiter l'expo et vous expliquant leur histoire ?
Alors, c'était la plupart du temps très émouvant. On savait bien que les gens viendraient parce qu'ils avaient soit travaillé là, soit qu'ils avaient un parent qui avait travaillé à la radio. C'est très sympathique de donner vie à des photos, de donner vie à des plans, parce qu'on a plein de plans anciens, des photos anciennes, mais qui ne parlent pas, qui nous racontent que ce qu'on y voit. Là, il y avait vraiment une histoire personnelle. De ces gens qui l'ont plus ou moins bien vécu. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est parfois avec difficulté qu'ils se rappellent tous ces moments-là.
Parce qu'ils ont été licenciés, en effet, oui.
Voilà. Mais c'est souvent des belles années. Et j'ai notamment l'anecdote d'un monsieur qui a reconnu son papa sur une des photos. Sur une des photos de chantier, en fait, son père était chef de chantier pour la construction de la radio. Donc, il a reconnu son père. Il nous a demandé s'il pouvait avoir la photographie. Il était très ému. Et c'est forcément quelque chose qui nous touche parce que c'est la vraie vie qui a existé. Il nous raconte également que son oncle avait été sur le chantier du sanatorium. Donc, comme ça, c'est vraiment une affaire de famille.
Vous pourrez les interviewer quand vous voudriez faire quelque chose sur l'histoire de l'architecture dans le coin.
Exactement. Voilà, il y a vraiment une matière humaine, un sentiment très très fort autour de ce bâtiment et ça touche vraiment tous les doigts. C'est vraiment ce patrimoine commun qui fédère les gens et c'est très très touchant, très intéressant à écouter.
Eh bien, notre émission s'achève. Merci, Madame Montigny, d'être venue à Radio Grand Ciel pour nous parler d'abord du CAUE, mais aussi de la radiotechnique et de l'impact historique et humain que cette usine a eu sur le paysage drouais et dans la vie des drouais. Merci beaucoup et aux auditeurs, j'espère que vous aurez l'occasion de visiter cette exposition. Si vous ne l'avez pas fait à Dreux, allez la voir à Chartres. Et en tout cas, bonne semaine à tous. Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Thank you.